Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pessé.
Bonjour, je suis effectivement Christian Pessé. Bienvenue dans la maison de Christian, votre émission sur la maison, bien sûr, mais sur la construction en général, sur l'aménagement, sur la rénovation, sur son équipement. Alors, vous retrouverez dans cette émission, comme d'habitude, un certain nombre de rubriques et vous la retrouverez sur renoinfomaison.com, sur notre page Facebook, une page dédiée, sur LinkedIn, sur les principales plateformes de podcast en audio, également sur une chaîne YouTube spécifique donc à la maison de Christian. Alors, dans cette émission, je vais répondre à Franck qui me demande comment remplacer un éclat, enfin réparer plutôt un éclat dans du carrelage. C'est du carrelage apparemment, du carrelage blanc 30-30, et il y a un gros éclat donc au milieu. On va voir ça donc dans quelques instants, parce qu'évidemment c'est très visible au milieu de sa pièce. Pas de coup de cœur produit aujourd'hui, mais plutôt un coup de gueule. Il n'y avait pas beaucoup de nouveautés en plus cette semaine. Et un coup de gueule, le coup de gueule, c'est pour à propos de la énième version de MaPrimeRénov. Ça fait des années que ça dure, on ne voit pas pourquoi ça changerait. Je vous en parlerai donc tout à l'heure. Mais tout de suite, on va voir qui sont les commissaires de justice, un terme peu connu encore, et leur intérêt quand on fait des travaux de rénovation. On va voir ça avec maître Régis Granier, qui est vice-président de la Chambre nationale des commissaires de justice.
L'invité de Christian Pessé.
Bonjour, monsieur Granier.
Bonjour, Christian. Merci pour votre invitation.
Vous pouvez nous dire qui sont les commissaires de justice, quelle est leur fonction? Je pense que ça n'est pas encore très connu.
Alors, commissaire de justice, c'est cette nouvelle profession qui est née le 1er juillet 2022, donc une toute jeune profession, même si elle est issue du rapprochement de deux professions beaucoup plus anciennes et multiséculaires que sont les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires. Pour la définir, je vais aller sur les fonctions, puisque c'est comme ça qu'on peut le mieux la définir. Ce rapprochement, c'est en fait l'addition des fonctions réciproques de chacune des deux professions. C'est un cumul. Il n'y a pas eu de déperdition lors de ce rapprochement. Et donc, si l'on fait le cumul de ces deux professions, nous arrivons en gros à quatre fonctions essentielles, que sont la signification des décisions de justice, l'exécution des décisions de justice, le constat qui nous occupe aujourd'hui, et le quatrième pôle qui était plutôt celui de nos amis commissaires-priseurs judiciaires, c'est-à-dire les inventés, prisés et ventes aux enchères judiciaires. Mais je préférerais définir ma profession en disant que nous conseillons, nous accompagnons et nous préservons les droits du justiciable.
Alors, pourquoi vous intéressez-vous aux travaux de rénovation de l'habitat?
Alors, ce pourrait être un phénomène, je dirais, d'opportunisme, puisque c'est un sujet d'actualité pour deux raisons. La crise de l'immobilier dans le neuf, qui peut-être va reporter l'activité immobilière sur la rénovation. Et puis, toutes ces, obligations énergétiques qui petit à petit se mettent en œuvre et donc vont contraindre certainement ou inciter certains propriétaires à faire des travaux. Mais ça n'est pas du tout, cette raison-là, c'est tout simplement parce que dans les travaux et a fortiori de rénovation, ce sont des travaux souvent lourds, longs, qui font intervenir de multiples corps de métier et dont vous avez là tous les ingrédients pour créer, des difficultés. Donc, des difficultés de cohabitation entre ces corps de métier, des difficultés dues à des enjeux financiers importants qui font qu'effectivement, nous avons par essence matière à intervenir très régulièrement. Donc, quand je vous disais que ce n'était pas simplement de l'opportunisme, c'est effectivement la réalité parce que c'est un domaine que nous avons investi, depuis bien longtemps. La peut-être pas une majorité, j'irai pas jusque-là, mais une grosse partie de nos interventions en matière de constat se font sur le bâtiment. Donc, si vous voulez, c'est assez naturel, c'est pas un phénomène de mode de société. Nous avons voulu effectivement, au travers de ce communiqué de presse, rappeler l'intérêt de notre fonction dans ce domaine.
Alors, dans un récent communiqué, la profession, la vôtre, liste l'intérêt de différents constats dans la maison, pas seulement en cas de conflit, on peut les faire avant, pendant et après les travaux.
Alors le premier, c'est vraiment le tout début, c'est-à-dire c'est l'affichage. En l'occurrence, puisqu'on est dans la rénovation, ce n'est pas le permis de construire, mais ça peut être le permis de démolir ou le permis d'effectuer des travaux. C'est déjà là, effectivement, comme vous dites, il y en a toute une liste, mais celui-ci devrait faire l'objet réellement d'un réflexe systématique. Parce que si vous voulez vous protéger vis-à-vis des voisins pour pouvoir prouver que vous avez bien affiché votre permis pendant les 2 mois réglementaires de façon lisible et visible depuis la voie publique, effectivement, vous n'avez que le constat de commissaire de justice pour pouvoir prouver cet affichage. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui est systématique.
Alors pendant les travaux, c'est aussi important, éventuellement, je crois, de faire appel à vous, c'est cela?
Pendant les travaux, vous avez les difficultés, je vous disais tout à l'heure, effectivement, liées à la succession souvent de corps de métier, qui peuvent engendrer, si l'un prend du retard, peut engendrer des pénalités de retard. Il est évident que le corps de métier qui arrive après aura tout intérêt à faire constater que malheureusement, le retard, en ce qui le concerne, ne lui est pas imputable. Après, vous avez différents cas d'espèce, je dirais. Par exemple, lorsque dans la rénovation, il y a souvent ce qu'on appelle entre guillemets, des mauvaises surprises. Mais ces mauvaises surprises, il est parfois intéressant de les faire constater parce qu'elles peuvent être le fait d'autrui, mais c'est vous qui en pâtissez parce que, par exemple, il y a une canalisation qui ne figure nulle part. Elle ne vous impute pas, mais en revanche, elle peut retarder ou augmenter le coût des travaux. Vous avez donc intérêt effectivement à la faire constater.
Après les travaux, évidemment, on peut, grâce à vous, établir vraiment l'état des biens, avec, encore une fois, différents constats.
Alors, après les travaux, c'est-à-dire au moment de la restitution justement des clés, de ce chantier, où là également peuvent subsister des malfaçons. Et c'est là où tout à l'heure je disais, nous conseillons, nous accompagnons. Il est toujours difficile pour le client, vis-à-vis d'un professionnel, de faire valoir le fait que il lui semble, entre guillemets, que tel ou tel travail n'a pas été fait dans les règles de l'art. C'est toujours difficile, c'est un rapport qui est inégalitaire, je dirais, entre le professionnel et le client. Là, le commissaire de justice trouve vraiment toute sa place parce que nous sommes officiers publics et ministériels, nous sommes impartiaux, objectifs, et il n'y a pas, je dirais, de difficulté à faire remarquer les faits et uniquement les faits. Il n'y a pas cette connotation que pourrait avoir peut-être un petit peu affective, je dirais, le propriétaire vis-à-vis de son bien, le propriétaire peut-être trop exigeant. Nous sommes neutres et donc nous sommes l'intermédiaire et ensuite nous pouvons même réintervenir lorsque les travaux ont été rectifiés pour être capable de dire, bon, là, d'accord, ça a été fait dans les règles, on en reste là, ou bien non, ce n'est pas suffisant. Parce que si vous devez, je dirais, revenir une deuxième fois, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Le client, il est un petit peu démuni, il dit, bon, on va en rester là, et puis terminé. Voilà. Donc, on a ce rôle de protection, d'accompagnement, je dirais, on n'est pas avocat, entendons-nous bien, mais justement, ça permet de poser le problème, je dirais calmer les esprits, parce que dans ce cas-là, parfois, il peut y avoir une discussion qui peut s'envenimer. Là, elle reste effectivement au fait de façon objective.
Alors, s'il faut faire tous les constats qu'on vient de lister, ça doit coûter très cher, cette opération. Alors, est-ce qu'on peut dire le coût d'un constat? Est-ce qu'il y a des forfaits, par exemple?
Alors, effectivement, dans notre communiqué de presse, nous avons évoqué tous les cas de figure. Bien évidemment, Dieu merci, tous ne trouvent pas à s'appliquer. Sinon, là, le client, on pourra dire qu'il n'a vraiment pas de chance. Je dirais qu'il faut être quand même un petit peu, c'est une question de bon sens. C'est-à-dire que ça dépendra des enjeux en fonction de l'ampleur des travaux, de leur coût, de la complexité de ces travaux et du fait que ça se passe bien ou pas. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le constat d'affichage du permis de travaux, là par contre, ce doit être un réflexe, je dirais, systématique, parce que c'est quelque chose qui est nécessaire. La loi prévoit qu'on doit être en mesure de prouver qu'on a bien affiché pendant les 2 mois. Ensuite, au cours du chantier, bien évidemment, si tout se passe bien, c'est pas la peine de faire intervenir, je dirais, à tout bout de champ, un commissaire de justice. De la même façon, à la fin, si finalement le chantier est terminé dans les délais et que le client est satisfait de la prestation qui lui a été fournie, bien évidemment, il n'a pas besoin d'être accompagné d'un commissaire de justice. Mais pour revenir proprement parler de votre question sur le coût, je ne pourrais pas vous donner un coût pour la raison suivante. D'abord, ce coût varie en fonction de la durée, de la complexité de la prestation qu'on nous demande. Mais surtout, si j'annonçais un coût, je me ferais rappeler à l'ordre à juste titre par l'autorité de la concurrence qui me dirait les honoraires de constat sont libres. Ce n'est pas comme les honoraires, effectivement, dans notre activité régalienne d'exécution des décisions de justice, pardon, où ils sont tarifés. Là, ils sont libres. Donc, à partir de là, c'est la règle commerciale qui s'applique. Le client demande un devis, un ou plusieurs devis à plusieurs prestataires, et puis prend certainement le mieux-disant. Mais en pratique, notamment dans le bâtiment, on intervient souvent autour, dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres autour de notre office. Les corps de métier nous connaissent, on travaille avec une certaine fluidité, connaissent nos conditions tarifaires. Mais je tiens à insister là-dessus, effectivement, il est conseillé de faire un devis.
Finalement, ça sert à quoi le constat? Est-ce que ça sert uniquement quand on veut faire un recours en justice?
Oui, bien sûr, puisque le constat de commissaire de justice est la seule façon de prouver de façon irréfutable des faits devant un tribunal. Mais ce n'est pas seulement, je dirais, cet aspect, j'appellerais curatif. Puisque, comme je vous le disais au début de notre entretien, quand je définissais le rôle du commissaire de justice, qui était un accompagnateur ou un facilitateur, le constat est dissuasif. C'est plutôt dans cet esprit même qu'il faut le voir. Parce que dès qu'on parle de commissaire de justice, de constat, tout de suite, on pense conflit. Pas du tout. Pas du tout. Dès le départ, lorsqu'il y a une mise en relation entre le client et le professionnel, bien évidemment, s'engage à ne pas créer des dégâts autour du chantier, et le client s'engage tacitement à ne pas reprocher au professionnel d'être la cause de quelque chose qu'il n'est pas. Eh bien, écoutez, puisque chacun se fait confiance, le plus simple, on met entre les deux et au milieu un commissaire de justice. Il n'est pas pour ou contre un tel. Nous, on n'a pas des clients, on a des requérants, des demandeurs. Et donc, à ce moment-là, les choses sont figées. C'est une question de confiance réciproque, de protection réciproque. Et bien souvent, le fait d'avoir fait un constat dissuade l'une des parties d'avoir des velléités, peut-être un petit peu de mauvaise foi. Ça permet effectivement d'éviter, justement, et paradoxalement, par rapport à ce que l'on croit trop souvent, d'aller en justice. Les choses se règlent parce que chacun ayant connaissance de ce constat se dit, bon, je ne vais pas essayer de profiter de la situation. Et si il devait quand même y avoir possibilité de litige, on reprend le constat, on regarde les deux parties, et puis peut-être que, du coup, une personne qui pensait être victime d'un préjudice peut se rendre compte, effectivement, qu'elle se trompait et en rester là. Donc voilà, c'est important, cette partie, je dirais, dissuasive et finalement amiable, pas du tout de connotation judiciaire.
Et alors, pour finir, question basique, mais comment on peut vous saisir?
Si vous ne connaissez pas effectivement de commissaire de justice, vous allez sur notre site public, sur le site internet public, commissaire-justice.fr, et là, vous avez tout l'annuaire de la profession. Vous allez sur l'annuaire, vous tapez votre lieu, soit de domicile, soit le lieu où se trouvent les travaux, et vous allez avoir la liste des confrères qui vont sortir de façon tout à fait neutre, c'est-à-dire par ordre alphabétique, À vous de choisir, je dirais, le plus proche, mais ce n'est pas une obligation, c'est un libre choix là aussi, puisque en matière de constat, nous avons une compétence nationale.
Eh bien, merci, merci monsieur, ou plutôt maître Granier, je rappelle, vous êtes commissaire de justice et on a parlé de votre rôle lors des différents travaux de rénovation.
Votre question à Christian Pesset.
Alors la question, c'est Franck qui me la pose, il me dit, comment réparer un éclat sur un carrelage? Carreau blanc de 30-30, je vous le disais tout à l'heure, qui a des joints foncés. Et donc, comment réparer cet éclat suite à la chute d'un vase? Effectivement, en plein carreau, ça doit avoir fait des dégâts. Alors, il me dit que l'éclat, justement, est en plein milieu de carreau, et cela a causé un éclat en étoile. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire pour réparer cela? Alors, un éclat de cette importance, alors ça peut pas être plein quillé, il y a rien à faire, il n'y a pas d'autre chose à entreprendre que de remplacer le carreau. Alors on mesure l'importance d'avoir dans ce cas quelques carreaux d'avance qu'on aura pris soin de mettre dans un placard ou à la cave et qui va pouvoir, surtout s'il est blanc, s'insérer dans le carrelage. Alors si on n'a pas pris cette précaution, eh bien, on va se procurer des carrelages, des carreaux de même dimension et de même épaisseur qui pourront être de différentes couleurs. Alors, on peut mettre, par exemple, plusieurs carreaux. À ce moment-là, on remplacera plusieurs carreaux dans la pièce. Par exemple, des carreaux noirs, 3-4 carreaux répartis dans la pièce. Comment remplacer un carreau? Alors, ça, c'est loin d'être. Oh, c'est pas très très difficile, mais c'est quand même pas forcément simple. Il faut le dire, il faut faire ce qu'on appelle décaper les joints. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire les creuser, ça veut dire faire disparaître le joint. Alors il y a plusieurs solutions pour donc creuser, décaper ces joints. Le plus simple, c'est encore un outil multifonction. Vous savez, ce petit appareil qui ressemble un peu à une meuleuse, mais qui a au bout différents outils. Alors on l'équipera d'une lame qu'on appelle segment, c'est-à-dire en gros demi-lune, qui est au carbure de tungstène et qui va pouvoir donc passer entre les carreaux pour pouvoir éliminer le joint. Alors qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien le nettoyage, l'époustage donc du joint, enfin des résidus qu'on a pu donc récupérer. Alors on va faire ça évidemment sur les quatre côtés et ensuite bon on va carrément casser le carreau un peu plus par le milieu et on va lui aussi l'enlever, le décaper, suivant le terme professionnel. Alors qu'est-ce qu'on prend? Eh bien, on prend d'abord un ciseau de maçon qu'on va qualifier de pointu pour enlever donc casser le maximum du carreau. Et puis ensuite, on prend un ciseau de briqueteur. Alors un ciseau de briqueteur, c'est un ciseau très large qui va permettre d'enlever la colle qui reste encore en dessous du carreau. Alors évidemment, il faudra un carreau de même taille, je vous le disais, et puis il faudra un peu de colle carrelage qu'on va répandre donc sous ce qui va être donc la pose du nouveau carreau. On maroufle au besoin, c'est-à-dire on tapote avec d'abord la main et puis peut-être s'il y a besoin avec donc un maillet, une massette en caoutchouc. Donc on est là, maintenant il faut refaire le joint. Alors heureusement, d'après ce que j'ai compris pour Franck, les joints de son carrelage actuel sont noirs, disons, on va dire très foncés. Donc on va facilement retrouver de la barbotine, vous savez, c'est le matériau qu'on utilise pour refaire les joints, on va facilement en trouver. Si ce n'était pas le cas, eh bien il faudrait alors teinter la barbotine, trouver la teinte de la barbotine la plus proche possible des autres joints, des joints qui se trouvent autour. Alors sachez aussi par rapport à l'harmonie des joints que si ça n'est pas fameux, il existe aussi des stylos, on va dire des comme des marqueurs avec une teinte de joint que vous pourrez appliquer sur l'ensemble des joints donc de votre pièce pour qu'on ne voit plus du tout la réparation. Alors, mon coup de cœur est aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, un coup de gueule. Ce coup de gueule porte sur la simplification de MaPrimeRénov', vous savez, le dispositif d'aide à la rénovation énergétique. Alors, quand je dis simplification, c'est une nouvelle version encore de MaPrimeRénov'. Alors, cela fait des années que je dénonce l'inconstance des pouvoirs publics en matière de rénovation énergétique. Et je vais dire même, cela fait carrément des décennies qu'on est dans une situation qui varie d'année en année, de 2 ans en 2 ans. On a vu le crédit d'impôt, maintenant on voit la prime directe. Donc tout ça, évidemment, c'est loin d'être simple. Alors là, on était arrivé dans une période où la mode, ça allait être la rénovation globale. Alors la rénovation globale, c'est faire plein de travaux en même temps. Alors évidemment, c'est le plus efficace. Mais le problème, c'est que le reste à charge, c'est-à-dire plus les travaux sont importants et plus, après les aides, le reste à charge va être important pour les particuliers. Et évidemment, il y a des particuliers, beaucoup, qui n'ont pas les moyens de payer le reste à charge. Le résultat, c'est que, eh bien, on a assisté à une chute libre des demandes de MaPrimeRénov'. Les gens préfèrent encore ne rien demander plutôt que de s'engager dans des travaux de cette importance. Alors, là, on a eu un rétropédalage violent. Alors, on en revient à ce qu'on appelle les monogestes. Alors, monogestes, c'est travaux par travaux. Vous faites par exemple les fenêtres et puis vous faites l'isolation. Ce sont des gestes différents qu'on aurait peut-être fait ensemble dans une rénovation globale. Alors, évidemment, ça n'a pas pu fonctionner. Et donc, les gens n'ont plus demandé de dossier. Et puis, il y a encore autre chose, c'est que, j'en parle très souvent, il y a les entreprises RGE, reconnues garants de l'environnement. C'est tellement difficile à obtenir cette qualification qu'il n'y a que 5% des entreprises qui sont RGE. Alors évidemment, les entreprises, elles préfèrent encore faire une remise à leurs clients plutôt que de passer par le système de MaPrimeRénov' et donc l'homologation RGE. Alors il va y avoir, nous dit-on, une grande simplification donc de la demande RGE. On opterait donc cette fois pour une, je cite, hein, validation des acquis par l'expérience. C'est joli, ça veut dire simplement que si quelqu'un il pose de l'isolation depuis 20 ans, on va pas le renvoyer à l'école pour qu'il refasse la démonstration qu'il est compétent. Alors autre chose aussi mise sous le boisseau de l'accompagnateur Rénov', vous savez, ça c'était encore une belle invention, c'est qu'on allait avoir, puisque c'était des travaux importants, quelqu'un qui devait à accompagner les particuliers chantier par chantier. Évidemment, quand on les a cherchés, on les a pas trouvés, ou tout au moins on a trouvé de façon insuffisante. Et donc, il semblerait que ça ne soit vraiment que pour les travaux importants qu'on fasse appel à ce personnage, parce que les manques d'effectifs sont flagrants en la matière. Alors tout ça, ça peut être considéré. Je vais finir mon coup de gueule par un coup de cœur. Tout cela peut être considéré comme valable, comme intéressant, puisque ça va simplifier les choses, mais on peut quand même se demander si, d'un autre côté, ça ne va pas être un obstacle à la montée en compétences, puisqu'on va avoir aussi moins d'exigences. J'espère cette fois que le gouvernement va avoir la sagesse de rester sur ce dispositif pendant un certain nombre d'années, parce qu'on ne voit vraiment pas comment les particuliers, mais surtout comment les entreprises, peuvent fonctionner avec le risque de sans cesse voir évoluer la réglementation en soutien des travaux de rénovation, et notamment de rénovation énergétique. Alors voilà, eh bien, cet épisode de la maison de Christian touche à sa fin. Bientôt, vous aurez une nouvelle émission, c'est-à-dire dans une semaine. Et entre-temps, vous retrouverez des brèves que j'enregistre spécialement pour vous. Alors, vous pourrez retrouver cette émission sur reno-info-maison.com. sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur notre chaîne YouTube spécifique et sur la page Facebook de l'émission, mais aussi évidemment de renoinfomaison.com. Entretenez bien votre maison, n'engagez jamais des travaux que vous ne pourriez pas conduire. Faites confiance à des professionnels dont vous rechercherez quand même les compétences, par exemple en allant voir un chantier précédent qu'ils ont pu faire. À la semaine prochaine !